Vous écoutez Radio France Internationale, il est tout juste 16h à Paris, 14h en temps universel. Bienvenue à tous.
Olivier Sherman.
Les discussions entre les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine se déroulent en ce moment à Paris. Autre dossier sur la table, la situation au Proche-Orient et le dossier nucléaire iranien. Les nouvelles taxes douanières imposées à la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis ont déjà des conséquences directes pour les Américains. Nathanaël Vitran s'est rendu à Houston, dans le Texas, pour rencontrer des commerçants latinos qui souffrent de cette situation. Il y a 200 ans exactement, la France reconnaissait l'indépendance d'Haïti. De nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui en Haïti, en France et aux États-Unis pour obtenir réparation des crimes commis par l'État français à l'époque. Nous irons à Cayenne voir comment réagissent les Guyanais. Une baisse de plus de 7% en un an de l'aide publique au développement, selon le dernier rapport de l'OCDE. Première victime, les pays pauvres confrontés aux effets néfastes du changement climatique. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et l'émissaire spécial Steve Witkoff sont reçus aujourd'hui par Emmanuel Macron pour des discussions sur le conflit en Ukraine, au moment où les Européens tentent de faire entendre leur voix face à des pourparlers de cessez-le-feu qui piétinent. Également présents le Royaume-Uni et l'Allemagne et le bras droit du président ukrainien. Les Européens, pour Nicolas Tenzer, enseignant en géostratégie à Sciences Po Paris, doivent insister sur leur point de vue et bien faire comprendre que certaines propositions américaines sont inacceptables pour les Européens.
Dire simplement qu'il y a des choses que proposent les Américains qui sont inacceptables. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe, de manière unie, pas seulement l'Union européenne, hein, puisque bien sûr le Royaume-Uni est inclus dans ces discussions, fasse valoir leur point de vue. C'est bien sûr la sécurité et l'intégrité de l'Ukraine qui sont en cause, mais aussi la sécurité de l'Europe tout entière. Donc je pense que les Européens, de manière totalement solidaire, doivent dire non à ces propositions américaines, doivent dire finalement aujourd'hui ce que l'on a temps des Américains, c'est qu'ils continuent à aider l'Ukraine, et on a l'impression que Trump ne le veut pas, à lui fournir des armes et à défendre les bases du droit international, surtout à un moment où, en fait, les Russes ne peuvent pas gagner cette guerre. Les Ukrainiens ne peuvent pas aujourd'hui reconquérir tout le territoire perdu, mais en même temps, nous ne sommes pas du tout dans une position de défaite de l'Ukraine. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que l'Ukraine cède. C'est cette réalité-là qu'il faut faire comprendre aux Américains.
L'analyse de Nicolas Tenzer, enseignant en géostratégie à Sciences Po Paris. Il était l'invité ce midi de Clotilde Dumay. Moscou, par la voix du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé la volonté des Européens de poursuivre la guerre. Un émissaire du président russe, Vladimir Poutine, a par ailleurs accusé de nombreux pays de tenter de perturber le dialogue bilatéral renaissant entre Moscou et Washington. Enfin, la Russie considérera toute frappe sur des cibles russes avec des missiles allemands Taurus comme une participation directe de l'Allemagne au conflit en Ukraine, avec toutes les conséquences que cela implique au moment où Berlin réfléchit à fournir cette arme à Kiev. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, rencontre aujourd'hui à Téhéran son homologue iranien. Et pour lui, le temps est compté pour trouver un accord sur le nucléaire. Des déclarations avant la nouvelle séance de pourparlers samedi à Rome avec l'Iran, une semaine après l'ouverture de discussions indirectes à Oman entre Washington et Téhéran. L'AIEA est chargé de vérifier le caractère pacifique du programme nucléaire de l'Iran. Le président chinois Xi Jinping a rencontré le premier ministre cambodgien à Phnom Penh pour la dernière étape de sa tournée destinée à resserrer les liens de Pékin avec ses partenaires économiques en Asie du Sud-Est face à l'offensive douanière américaine. Xi Jinping a d'abord été au Vietnam puis en Malaisie à un moment où la Chine cherche à contrebalancer l'explosion des droits de douane imposés par le président Trump aux partenaires commerciaux des États-Unis. Une grande confusion règne en ce moment sur la politique douanière des États-Unis, à l'exception de la Chine, avec qui Washington a décidé d'engager une guerre commerciale totale. L'administration Trump a été forcée de mettre en pause les nouvelles taxes douanières imposées à la plupart de ses partenaires. Des exceptions ont été accordées à certains produits mexicains et canadiens aux États-Unis, mais pour les autres, une surtaxe de 25% s'applique toujours. Et ce n'est pas sans conséquence. Au Texas, voisin direct du Mexique, les commerces latinos souffrent de la situation. Reportage à Houston de Nathanaël Vitran.
Nous sommes en banlieue de Houston, dans un quartier très mexicain. Il y a énormément de commerces, de restaurants, d'entreprises ici qui font du commerce avec le Mexique.
Je m'appelle Gustavo Reyes. Ici, on vend des produits alimentaires, des fruits et légumes, de la viande, du fromage. On vend aussi beaucoup de produits typiquement mexicains, comme des bonbons. Je dirais que 85 à 90% de nos produits viennent du Mexique.
Alors forcément, les derniers mois ont été compliqués.
Le plus dur, c'est l'incertitude. Le président dit une chose et puis il en fait une autre. Un jour, on annonce 25% de droits de douane, le lendemain, c'est annulé. Et comme je vends en majorité des produits alimentaires périssables, je ne peux pas vraiment faire de stock.
Sur le parking du marché fermier, juste à côté, on rencontre Maria et son fils en train de mettre les courses de la semaine dans le coffre.
Son chile seco.
Du chili.
Pineapple.
Des ananas.
And, corn leaves,
des feuilles de maïs.
Most of them, I think, from...
La plupart de ces produits viennent du Mexique. Depuis le début de l'année, les prix ont augmenté. Beaucoup augmenté.
Go high, really high.
Mais l'inflation est loin d'être le seul sujet de préoccupation de la communauté latino.
Il n'y a pas que les tarifs douaniers qui affectent le business. Il y a aussi la politique migratoire. 95% de nos clients sont hispaniques. Pendant un moment, tout le monde avait peur. Plus personne n'osait sortir. Tout était fermé. Ça a eu un effet très important.
Nathanaël Vitran, Houston, RFI.
Il y a 200 ans exactement, la France reconnaissait l'indépendance d'Haïti. Et la France doit-elle demander pardon à ses anciennes colonies? Doit-il y avoir réparation? Un sujet qui résonne aussi dans les territoires français d'outre-mer. Illustration en Guyane avec à Cayenne, Emma Chevalier.
Faire reconnaître les droits des descendants d'esclaves, c'est le combat que mène Apa Mumia Makeba. Il préside le mouvement international pour les réparations en Guyane.
La France a du mal à assumer son histoire, en particulier celle de la réduction des Africains déportés en esclavage.
Depuis 2001 et la loi Taubira, la France reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais la création d'une commission censée évaluer les préjudices a rapidement été abandonnée, ce que dénonce Apa Mumia Makeba.
La mise en œuvre des réparations nécessite un fonds de compensation. Du point de vue juridique, les choses n'avancent pas.
En Guyane, un autre combat se mène en parallèle, celui des peuples autochtones pour la restitution des terres spoliées. Bénédicte Vjeke, représentante des chefs coutumiers.
Les Six Nations, nous avons travaillé dessus pour justement demander les 400 000 hectares à l'État. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de retour.
En 2017, lors des accords de Guyane, l'État s'était pourtant engagé à rétrocéder ses terres aux nations amérindiennes. Emma Chevalier, Cayenne, RFI.
L'aide publique au développement est en train de chuter dans le monde, selon le dernier rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Il s'agit de ces financements apportés par les acteurs publics des pays riches pour améliorer les conditions de vie dans les pays pauvres. Eh bien, en 2024, ce financement est passé de 223 milliards de dollars à 212 milliards de dollars, soit une baisse de plus de 7%. Agnieszka Kumor.
Depuis 2024, l'aide publique au développement est en chute libre et cette tendance pourrait s'accentuer en 2025, estime Alan Amich, chargé de campagne et plaidoyer solidarité internationale chez Oxfam.
Déjà, on est dans une période où la plupart des pays riches vont pratiquer de l'austérité. Par exemple, la France, en 2025, a acté une coupe historique sur son budget d'APD de près de 2,1 milliards d'euros.
Première victime de ces coupes, les pays pauvres confrontés aux effets néfastes du changement climatique.
Ce qui se passe en Afrique de l'Est est très inquiétant. On a eu plusieurs années avec des pluies insuffisantes, voire inexistantes. Et donc, on a une hausse de 80% depuis 2019 des personnes qui n'ont plus accès à l'eau potable. Ce qui crée une vraie crise de la faim dans cette région. Les financements internationaux pourraient permettre à ces populations de s'adapter au changement climatique.
L'ONG appelle les gouvernements à revenir d'urgence sur ces réductions d'aide publique au développement et propose pour trouver des financements, de taxer les plus grandes fortunes et les multinationales à leur juste niveau. Pour les pays pauvres, c'est souvent une question de vie ou de mort.
Et puis ce soir, Couleur Tropicale fête ses 30 ans au FEMUA d'Abidjan. Retrouvez Claudie Ciard et une foule d'artistes pour une émission spéciale en direct et en public à partir de 19h30 en temps universel. Mais tout de suite, c'est Anne-Cécile Bras pour C'est pas du vent. Bonjour Anne-Cécile Bras.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, les hyper-riches qui ravagent la planète.
Absolument, à tout de suite.